On est venu à la conclusion que même s'il y a un petit nombre de gens qui écoutent énormément de podcasts, et par énormément j'entends entre 30 et 40,
ouais, bien sûr, ouais.
La masse écoute entre 1 et 3 podcasts.
D'accord. Sachant qu'il y a un autre constat que vous avez peut-être fait, c'est que les podcasteurs se suivent entre eux par contre.
Ah oui, ouais, non, ouais, c'est un tout petit monde, c'est un tout petit groupe. Et effectivement, tous les beaucoup de créateurs de podcasts se connaissent et parlent entre eux. Mais par contre, l'audience d'un podcast ne va pas forcément aller écouter beaucoup d'autres podcasts.
Je prends mon chat, j'y ouvre la tête, je mets une cassette dedans. Elle change la cassette dans la tête du chat. Elle change la cassette dans la tête du chat. Elle change la cassette dans la tête du chat.
Et j'ai pas les paroles.
Et alors que mon fils fait des recherches sur son PC,
je suis très étonné qu'il ait le pantalon baissé.
Du coup, les gens peuvent coucher ensemble. Enfin, je sais pas dans quelle mesure ils sont.
Ouais, ouais, oui, bien okay, sûr, oui. Okay.
Donc c'est comme s'ils étaient en couple, sauf qu'ils sont, enfin.
Sauf que c'est pas.
Quelle est la nuance,
genre ? Oui, sauf que c'est pas sérieux au point où par exemple tu invites ta dinde chez toi.
Ta dinde.
Chez toi, tu vois. En mode chez toi avec tes parents et tout, ou faites des voyages partout dans le monde, enfin, tu vois.
Donc c'est intéressant. Ça dure combien de temps ça ?
Ça peut durer, je crois que la moyenne c'est 3 mois.
3 mois
d'après mon expérience.
Waouh.
Et après, soit le mec te demande en couple, soit vous coupez, enfin, vous vous larguez quoi.
Ah.
Et en fait, c'est aussi la pratique en Colombie, c'est trop bizarre parce qu'il y a une pratique où le mec te demande en couple comme si c'était une demande de mariage.
Ouais.
Et toi, tu dois dire oui ou non en tant que meuf.
Ah.
Bon, on va chez toi ou on va chez moi ? Il ne s'était jamais vu. C'était le premier rendez-vous. Elle lui a dit, à mon copain, là, elle a dit, on va chez toi ou tu viens chez moi ? Mais comment ? Même les animaux, ils se fréquentent un petit peu avant de... Alors ça, moi, je ne peux pas l'admettre. Ça, je l'admets. Et puis, je ne l'admettrai jamais. De ce côté-là, je suis toujours vieux jeu, moi.
Alors mon tableau Excel, il est hyper simple. En fait, c'est un tableau qui a une colonne par mois et ensuite une case par jour. Et dans la case, je mets la personne avec qui j'ai couché, si j'ai couché avec une personne. Donc c'est pas parfait parce que typiquement tout ce qui est plan à plusieurs ou si jamais j'ai couché avec plusieurs personnes dans la journée, ça le prend pas en compte. Mais au moins, ça me permet d'avoir quand même une vision de... Qui j'ai vu ce jour-là. Et avec ça, du coup, je fais un peu de statistiques. Donc, j'ai le nombre de fois, par exemple, où j'ai couché avec quelqu'un dans le mois. Enfin, le nombre de nuits que j'ai passées dans le mois à plusieurs. J'ai le nombre de partenaires différentes que j'ai eu dans le mois également. Par exemple, il y a eu un mois où j'étais blessé. J'ai couché 4 nuits, enfin, ou 4 jours ce mois-là. Et il y a un mois où j'étais plutôt en forme et j'ai couché 26 nuits ce mois-ci.
En fait, Deschamps, c'était un peu un acte sexuel très ennuyeux, missionnaire. Alors, tu te fais chier, mais t'as un orgasme incroyable. Et Bielsa, c'est l'inverse. C'est que c'était pendant l'acte, tu disais, fou, putain, où est-ce que t'as appris ça? Merde, il y avait des machins, il y avait des trucs. C'était vraiment grandiose et tu t'éclatais et tu disais, waouh, merveilleux. Mais l'orgasme,
non, mais
pas terrible.
Arrête de parler de sexe avec des mecs comme Deschamps et ça me met mal à l'aise. Là.
Et les gens qui jugent ta sexualité, de manière générale, tu peux leur dire ciao. Parce que.
Oui, oui.
en fait
toute ta vie, hein, pas être le lycée, hein.
Ouais, toute ta vie, parce que là les gens ils te font chier parce que t'as pas encore eu de rapport sexuel, mais les gens ils pourraient aussi te faire chier parce que t'en as eu un peu trop à leur goût, ou
oui,
un
ou
peu trop
tôt, parce que t'as pas le bon job, ou parce que t'as pas le bon mec, ou parce que t'as pas les enfants au bon moment. Enfin tu vois, après des gens qui te jugent, il peut y en avoir toute ta vie. Effectivement, c'est des relations toxiques, il faut les fuir. Et juste, c'est, enfin tu vois, toi tu disais que t'avais pas confiance en toi, moi je trouve que c'est une preuve énorme de confiance en soi. Ouais. Tu vois, arriver à dire non mais là tu me fais du mal, tu m'apportes rien de bon,
et moi je l'accepte pas,
je veux pas être avec toi et je veux pas rester à côté de toi, c'est méga strong, quoi, tu vois, genre ouais. t'es forte.
De Palma, en tant qu'obsédé sexuel notoire, va lui amener justement un malaise sexuel qui est omniprésent dans le film et dans la mise en scène expressionniste du film. C'est un film qui commence littéralement, c'est un blockbuster d'été, un blockbuster familial, qui commence par une scène de viol, en tout cas par un après-viol, puisque donc on fait croire à quelqu'un qui vient de tuer une prostituée dans un hôtel à Budapest. Des femmes qui se font schlinguer au couteau grand comme ça, un gars qui se prend une lame dans la bouche bien ouverte, Emmanuel Béart qui se fait violenter par un Tom Cruise qui lui met la main sur la bouche et la pousse sur un lit pour essayer de la faire parler lorsqu'il croit qu'elle l'a trahi, etc. Et lui, il est en t-shirt Marcel dont tu sens qu'il a bien transpiré dedans. Enfin, il y a toute une imagerie qui est vraiment, je vais pas dire charnel, mais enfin qui pue le sexe en fait, hein. mais pas le bon, charnel, pas le sympa, quoi, si tu veux.
On a besoin d'avoir un désir, on a besoin d'avoir un manque, de se dire ça on n'a pas réussi à le faire, ça on l'a pas fait, et ça on a absolument pas envie de raconter les mêmes histoires, de rechercher, de fouiller les mêmes thèmes, de fouiller les mêmes émotions, alors qu'à la fin on raconte la même chose. Alors qu'à la fin, de toute façon, c'est sûr que la saison 4 va dire la même chose que les autres saisons. Parce que c'est ça l'intérêt d'une série, c'est qu'une série, ça revient toujours à la même place. C'est ça l'intérêt d'une série. En fait, on tourne en rond. Mais en tournant en rond, on creuse. C'est ça exactement une série. Et on creuse quoi ? Et on creuse un truc qui a à voir avec la vérité.
La noblesse de Starla, c'est d'inventer des choses complètement neuves qui n'ont pas été faites. Moi, j'ai hurlé encore cet après-midi en table ronde avec une nana à côté de moi qui me dit de toute façon, il faut bien que les auteurs se rendent compte qu'ils n'inventent rien, même quand ils croient inventer, ils ne font que répéter ce qui a déjà été fait ou recombiner ce qui a déjà été fait. Mais bon, je lui ai rien dit, mais j'ai juste envie de mettre un coup de coude, quoi, tu vois. Je dis d'abord, je trouve ça hyper insultant, tu vois, et puis en plus, c'est faux. Voilà, l'histoire de l'art est faite de ruptures, est faite d'inventions, est faite de gens qui arrivent, qui surgissent et qui inventent le cubisme, et qui inventent le dadaïsme, et qui inventent le surréalisme, et qui. Voilà, et ça n'arrête pas, on n'arrête pas d'être surpris et d'être troué par des nouvelles inventions. Et en littérature, tous les grands amènent quelque chose de neuf, quoi.
C'est le seul endroit où on me foutrait vraiment la paix. Où je pourrais écrire tranquille, pas être emmerdé par tous ces macros de journalistes. Hein, on me foutra la paix là-bas. Vraiment, hein, je suis heureux en mer, Jacques. Vous n'avez pas idée à quel point je suis bien. Vous n'en avez pas idée. C'est formidable. Hein, ça fait 6 mois et des poussières. Hein, ça va faire. Ça fait 6 mois et demi, hein, que j'ai quitté Plymouth. Hein. Mais vous n'avez pas idée de ce que je suis bien tout seul, tranquille. C'est pas toujours rigolo, mais. Quand c'est beau, mais c'est fantastique, hein, tout ce que j'ai pu sentir, tout ce que c'est quelque chose. Oh, je sais pas si je pourrais raconter tout ça, je sais pas comment je pourrais le raconter, mais c'est fantastique. Alors, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Ce serait une connerie de rentrer en Europe. Je peux pas rentrer en France. Vraiment, je peux pas.
Enfin, c'est pas que j'ai pas de vie sociale, parce que ça sonne comme un truc péjoratif, oui, de dire ça. J'ai pas de vie sociale, non, mais vrai. J'ai une vie sociale, mais ma vie sociale, elle ne demande pas de... Nous, on analyse ces choses, on les tord, on va pas s'amuser à rentrer... Dans... Enfin, je sais pas, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Écoute, j'ai un copain l'autre jour, il m'appelle, il me dit, ça te dit d'aller dans un truc à tapas? Je dis, mais t'es fou, toi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu me vois? Enfin,
c'est même pas une vraie proposition.
Mais t'es complètement fou. S'il y a des tapas là où on va, c'est une coïncidence. Je m'en fous, ok. Mais tu vas pas. Le moteur va pas être la tapas, quoi. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas, c'est impossible. Moi je peux pas aller
le moteur c'est le
tapas. Non, le moteur c'est le... Ouais, je te rappelle là, je vais, j'ai une envie de tapas. Mais vous êtes fous les gars.
Bon bah merci beaucoup en tout cas, bonne continuation. On écoute maintenant un peu de musique avec la rappeuse montréalaise Donzel et son titre Jalousie, un hymne au sisterhood dans la plus pure tradition du party rap trilingue Pussycore Kitsch Pop.
L'effet cathartique que te donne le rap, quoi. C'est-à-dire que tu vis des choses. Enfin voilà, il te parle de trucs de violence absolue et donc c'est, je vais pas faire, mais c'est comme la tragédie antique, quoi. C'est-à-dire que ils te parlent de trucs que toi tu vas pas faire. Et t'es super content parce que tu le feras jamais, mais quelqu'un le dit à ta place, donc c'est cool. Donc ça va, je m'enlève les mains et je peux le vivre. C'est pour ça que les gens comprennent pas quand ils critiquent des albums, ils comprennent pas que c'est de la fiction et qu'on a juste besoin de ça pour échapper, quoi, pour échapper à la violence de la vie.
J'ai vu une annonce en début de semaine, moi qui m'a fait bondir, c'est déjà l'annonce, c'est le cliché, l'arabe nié qui vend de la drogue, et en plus collé à cette annonce une insulte, voilà. Et au bout d'un moment, c'est, tu te dis stop. Le mouvement des femmes à Cannes, des femmes noires à Cannes, je les comprends. En fait, elles sont pas noires, elles sont comédiennes. Et nous, on n'est pas issus de l'immigration ou arabe, on est français, on peut jouer Claude. On peut, moi, des fois, je suis moins typé que des mecs qui s'appellent Steven. À un moment, il faut arrêter de nous coller un nom, Momo, Kader. Non, on n'est pas Momo, on n'est pas Kader. Je m'appelle Nabil, mais je peux jouer Michael, je peux jouer, je sais pas moi, je peux jouer plein de trucs et faut s'ouvrir à ça, il faut sortir de ça.
Lorsqu'on se politise, lorsqu'on s'informe, lorsqu'on se dote d'éléments critiques, d'une pensée critique sur un aspect ou un autre des choses, on est déjà en train de participer à la refonte du monde dans lequel on est, même si ça sera pas aussi spectaculaire qu'Octobre 17, quoi.
Les enquêtes sur bonheur et travail qui ont été menées en France au début des années 2000 ont montré que le travail, au sens d'emploi, est une valeur centrale pour les Français et considéré comme étant essentiel au bonheur, et cela d'autant plus pour ceux qui en sont privés. Donc on peut pas concevoir les mesures de soutien aux revenus comme des mesures qui décourageraient l'emploi.
Ok. Mais tu vois, le problème, c'est qu'on est tellement pollué par le capitalisme que, qu'on a l'impression que les gens peuvent pas faire des choses si c'est pas payé ou rémunéré, quoi, tu vois. La vérité, c'est que c'est faux. La vérité, c'est que les gens peuvent parfaitement faire des choses et y passer des milliers d'heures s'il y a un échange et un partage qui les rémunère, j'ai envie de dire, symboliquement, affectivement, en termes de réseau d'amitié, en termes de bons moments passés ensemble, etc.
De connaissances aussi.
De connaissances. Et c'est ce désir partagé, cette envie partagée, ce plaisir partagé de faire des choses ensemble qui va être beaucoup plus fort que toute rémunération que tu peux trouver dans ces grands groupes, quoi, tu vois.
Je pense qu'on est souvent médiocre par défaut, par dépit. Hein, on mérite mieux. Hein, globalement, les gens méritent beaucoup mieux que d'être assignés à cette médiocrité-là, c'est-à-dire à devoir se formater continuellement, et sur le plan de la morale, parce que c'est un autre aspect aussi, et le « ta gueule, je te paie » touche à ça aussi, c'est à devoir mentir, à devoir pratiquer le harcèlement moral envers autrui pour ne pas le subir soi-même, à devoir vendre à des gens qui n'en ont pas besoin de la camelote, dont on sait qu'elle ne leur convient pas, à être continuellement en conflit avec soi-même, parce qu'il le faut, parce qu'il faut jouer le jeu, parce qu'il faut se conformer, parce que si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre va le faire, et parce que si on ne fait pas, on va nous le faire. Donc, on est dans un rapport où, du point de vue du travail, du point de vue de la pensée, du point de vue de la morale et du point de vue des affects, on aliène tout et on n'est plus rien. On est pris là-dedans, ce qui explique énormément de colère, de frustration et de souffrance.
Putain, mais vas-y! Marche sur ma serviette! Je te dirai rien! Connard, va! Connard! Excusez-moi.
Là, ça a été le moment où
où beaucoup de choses se sont déclenchées et où j'ai vu le vrai visage des personnes qui m'ont quand même élevé. Mes parents n'avaient pas envie d'avoir un PD chez eux, d'avoir une personne malade, d'après leurs mots. Donc ils ont ouvert la porte et puis je suis parti, quoi. Voilà. Mais ça arrive à plein de gens.
Donc on se retrouve comme ça avec des lectures qui perdurent. C'est pour ça qu'on a une telle, finalement, césure entre l'époque gréco-romaine où finalement c'était admis, ça faisait partie des mœurs, c'était même parfois un rite de passage, à une culture judéo-chrétienne où là, d'un seul coup, ça devient condamné. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense, qu'on commence à avoir cette logique-là, cette logique que la sodomie, c'est mal, puisque si tu es sodomite, ça veut dire que tu es homosexuel, donc c'est très très mal. Et ne serait-ce que sur la religion chrétienne, on est sur quand même 2000 ans. Ça laisse des traces quand même.
Qui définit ce qui est disgracieux ou ce qui est inapproprié? Ni la loi, ni la morale, il s'agit tout simplement de la société, ou plus simplement d'un groupe de personnes. Rire leur permet de pointer l'excentricité qui s'écarte du commun, précise Bergson. Au final, craignant d'être moqué, nous cherchons à nous perfectionner.
Et elles essayent d'effacer ce qui est spécifiquement féminin, à savoir le ventre, les fesses, les cuisses, les hanches. Souvent, elles attribuent un excès de poids ce qui relève de la forme naturelle de leur corps. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on accepte et qu'on valorise la diversité des corps, qui est une richesse, et qu'on arrête de vouloir se conformer à des normes.
Moi, mon grand souci avant, c'était que c'est bête, hein, mais ça m'embêtait. C'est que j'avais des culottes qui étaient hyper échancrées, qui rentraient dans les fesses, en fait. Dès que je faisais trois pas, ça me rentrait dans les fesses. C'était chiant. Donc, du coup, il y a des potes qui m'avaient dit, mets un string, comme ça, c'est déjà dans tes fesses, c'est pas grave. Je trouve pas ça agréable et c'était pas mon truc non plus. Et du coup, j'ai essayé des slips pour mec et c'est super, ça rentre pas dans les fesses, c'est bien coupé, c'est pas trop échancré et t'es super confortable.
C'est comme les gens qui disent ma part de féminité c'est ma timidité ou ma douceur ou machin, mais en fait il y a des garçons timides et il y a des garçons qui sont très doux et c'est pas forcément féminin. Donc ça c'est un truc que j'essaie de combattre aussi, même intérieurement, de me dire en fait t'es con de dire ça, parce que non, être une fille ça veut pas dire porter du rose et du maquillage et se foutre du vernis sur les ongles. Non, pas du tout.
Le fait de prendre soin de soi et de s'intéresser à son apparence était vraiment vu comme pas seulement de la frivolité, mais vraiment une perte de temps. Et pour caricaturer, pourquoi se mettre du rouge à lèvres quand il y a tellement de livres à lire, quoi. Voilà. Faire une faute de grammaire, avoir des notes de merde à l'école, ou pas avoir une référence quand quelqu'un faisait une blague, ça c'était inadmissible. Donc on bichonnait plutôt le cerveau, en fait. Ce qui est une façon qui, je pense, m'a vachement protégée, quand même, parce que ça a évité que je mise tout là-dessus. C'est quand même tellement aléatoire et tellement incertain de miser sur la beauté, sur la façon dont t'es perçue par les autres, que je pense que c'est beaucoup de déception et de violence. Donc ça m'a préservé de ça, dans le sens où ça, c'était pas, non seulement c'était pas une priorité, mais c'était pas comme ça que je me valorisais et que je me définissais. Même si, encore une fois, je pense que l'erreur, c'est d'opposer les deux.
Il n'y a pas de limites, il n'y a pas de normes, on est libre.
En fait, il y a 7 voitures de flics qui vont se relayer pour m'accompagner, parce que moi, je vais monter en 9 heures en tout. eux sont impatients d'arriver. Donc à chaque checkpoint, en fait, tous les 5 km, bah, il y a une mise relais, ils changent de voiture. Et finalement, au départ, ils étaient très, très sur les dents. C'est-à-dire qu'eux, ils connaissaient la route. Et savent très bien que, qu'à ce rythme-là, on n'est pas couché. Ils me forcent pas, mais ils m'incitent très fortement à mettre le vélo dans le pick-up. Ce que je refuse catégoriquement, parce que moi, je suis là vraiment pour essayer de faire toute la route. Ce qui est un peu, c'est vraiment de l'obstination un peu bête et méchante, mais je veux faire la route à vélo. Et finalement, au fur et à mesure que j'avance, qu'ils voient que je progresse, mine de rien, un petit peu, ils se prennent au jeu, ils m'encouragent, ils me donnent de l'eau, ils me tapent dans le dos. Et puis quand on arrive au sommet, au bout de 9 heures d'effort quand même, le chauffeur me tombe dans les bras en me tapant dans le dos, en me disant well done, et voilà, on a une accolade très chaleureuse là-haut.
Vers 15h, quand j'étais de quart avec Yann, alors que les autres dormaient, on a justement observé que la mer commençait à se former de plus en plus. On était mal réglés, Flores réagissait mal, il était de plus en plus dur à barrer. On était justement en train de se dire qu'on allait changer quelque chose, un réglage. Mais on n'a pas eu le temps de le faire. Et là, j'ai vu les yeux d'Yann écarquillés. J'ai pas du tout eu le temps de regarder dans la même direction que lui, mais j'ai eu le temps de voir du coin de l'œil une énorme masse d'eau turquoise. Et là, trou noir.
T'es très attachée à la Guadeloupe ?
Oui. C'est vraiment un endroit où je me sens vraiment bien. Je mange bien. Quitte à choquer les gens, je chie bien, je dors bien.
Ok.
Tout ça. Non, mais c'est important. Le transit, c'est très important.
Ok.
J'ai choqué Françoise.
Non, c'est intéressant de l'intégrer dans le cadre de cette interview.
Tu peux contrôler la température, la puissance du jet, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses.
Ah oui, non, mais ça m'intrigue beaucoup.
Et ça existe. Enfin, ces toilettes-là existent au Japon pour des questions liées à la bouffe essentiellement, parce qu'il y a une alimentation assez pauvre en fibres, assez peu de légumes verts là-bas, beaucoup de riz. Et donc voilà, et énormément de problèmes d'hémorroïdes et de choses comme ça. Et donc c'est pour ça que tu as des petits jets tièdes qui vont plus ou moins masser et amoindrir les effets néfastes d'une digestion un peu
sans
dure.
Sans blague.
Ouais. Ah ouais.
Moi, je pensais que c'était juste des tarés de l'hygiène corporelle.
Alors t'as ça aussi, mais t'as une vraie raison médicale quoi.
Une collection.
Collection des troncs, vous voulez dire?
Ouais. Ouais. Que vous conserviez dans des bocaux.
Oui, j'ai fait ça.
C'est fini ce temps-là ?
C'est fini parce que ça me posait pas mal de problèmes.
L'intendance ?
L'intendance. Oui. Et c'est vrai que les étrons m'ont fasciné à un moment dans ma vie, oui. Continue d'ailleurs. Je ne sais pas qui disait, je crois que c'est Queneau qui disait on ne peut pas faire confiance à un type qui ne regarde pas ce qu'il a fait aux toilettes. Il y a des gens qui tirent la chasse d'eau sans même regarder. Ça les dégoûte, ou je sais pas. Ils tirent, ils veulent pas voir. Moi, je pense qu'au contraire, c'est là que ça se passe, et que votre état du moment, c'est ce que vous trouvez au fond des toilettes. Hein. Il n'y a pas de secret.
On se donne rendez-vous pour un éventuel prochain podcast. Sur ce, je serais bien resté, mais...